VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Nathalie Barge avec vous au sommaire de cette édition du 15 janvier 2018. Non-lieu pour des militaires français accusés de viol d'enfants en Centrafrique. Des parlementaires congolais de la majorité de l'opposition demandent l'annulation de la nouvelle loi électorale. 10 morts dans des combats à Tripoli. Le gouvernement éthiopien a annoncé la libération de 500 prisonniers politiques dans 2 jours. Et dans la page sportive, le Chan Maroc 2018 sera à l'honneur. Et en cyclisme, premier coup de pédale sur la tropicale Amissa Bongo, c'est au Gabon. Non-lieu pour les militaires français accusés de viol d'enfants en Centrafrique. 3 ans après ces accusations, la justice française a écarté la perspective d'un procès, laissant des questions en suspens et des parties civiles déçues. Yacouba Ouédraogo.
Les juges français ont rendu un non-lieu dans ce dossier clos sans aucune inculpation, conformément aux réquisitions du parquet de Paris. Dans son réquisitoire, le parquet a souligné que les incohérences et la variation des témoignages ne permettent pas d'établir des faits étayés à l'encontre des militaires. L'ONG Emmanuel Daoud a annoncé qu'elle ferait appel de l'ordonnance pour ne pas donner le sentiment que c'est terminé. Nous avons assisté depuis le début de l'enquête à la chronique d'un non-lieu annoncé, a réagi Rodolphe Constantino, avocat d'une autre association, Partie Civile, Enfance et Partage. L'affaire a éclaté en avril 2015 lorsque le quotidien britannique The Guardian a fait état d'une note interne de l'ONU relatant les auditions des 6 garçons de 9 à 13 ans. Ils ont accusé des militaires de les avoir violés en échange d'argent et de nourriture entre décembre 2013 et juin 2014. Certains militaires ont affirmé avoir donné des rations alimentaires, mais ont nié tout abus sexuel.
Mouvement de colère contre l'insécurité dans le sud Kivu en RDC après l'assassinat d'un combiste. Blanche Sanou nous en dit plus.
Des habitants, en majorité des jeunes en colère, ont détruit cette nuit le poste d'encadrement administratif de Kamagnola et ont brûlé tous les dossiers qui se trouvaient dans différents bureaux, a déclaré à l'AFP l'administrateur du territoire de Walangu, Dominique Bofondo. Un cambiste a été assassiné à son domicile dans la nuit de dimanche dans cette ville. Les habitants ont donc protesté pour dénoncer l'insécurité qui règne dans la localité. À la mi-journée, des policiers ont procédé à des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Selon des témoignages, toutes les activités sont actuellement paralysées à Kamagnola. La route Bukavu-Uvira est barricadée. Les écoles et d'autres activités commerciales sont fermées.
Par ailleurs, 3 militaires congolais ont été tués dans l'est de la RDC dans une attaque attribuée aux rebelles ADF après plus de 2 heures de violents combats. Des parlementaires congolais de la majorité et de l'opposition ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de la nouvelle loi électorale, estimant certaines de ses dispositions contraires à la Constitution, comme l'affirme Christophe Lutundula, vice-président du G7, au micro de notre station partenaire Top Congo FM.
Nous respectons les institutions de la République et il appartient à ceux qui ont en charge la gestion de ces institutions de se montrer à la hauteur de ce que sont ces institutions et des attentes de la population. Donc aujourd'hui, nous avons fait le devoir qui est le nôtre. Nous espérons que les magistrats de la Cour vont assumer leurs responsabilités. Je crois que c'est très clair et donc nous attendons que le droit soit dit en toute indépendance et nous sommes sûrs que s'il est dit en toute indépendance, l'affaire de l'article 101 avec les seuils aura une décision juste, équitable. Et enfin, ce n'est pas un problème seulement des indépendants, c'est un problème de principe. Les sénateurs et les députés, nous sommes législateurs.
Dans une vidéo diffusée ce lundi par Boko Haram, 14 présumées lycéennes de Chibok déclarent refuser de rentrer chez elles. C'est la seconde vidéo de ce genre depuis mai, lorsqu'une jeune femme affirmant être une des 219 lycéennes enlevées en 2014 dans l'état de Borno était apparue brandissant une arme et refusant de rentrer chez elle. Rien n'indique cependant quand et où ce message a été enregistré, ni si les jeunes femmes étaient sous la contrainte. Le principal parti d'opposition en Guinée équatoriale, Citoyen pour l'innovation, a annoncé la mort en prison d'un de ses militants dans la nuit de samedi à dimanche. Santiago Ebi Ela est mort au commissariat central de Malabo à cause d'une torture cruelle, affirme un communiqué du parti. L'information n'a pas pu être confirmée auprès des autorités. Le parti CI exige des explications sur la mort du militant et que son corps soit restitué à la famille. 930 personnes ont été arrêtées lors des récents troubles sociaux en Tunisie, a indiqué ce lundi le ministère de l'Intérieur. Hier, le pays a marqué le 7e anniversaire de sa révolution qui avait donné le coup d'envoi aux révoltes arabes. Et Kabadou revient sur la révolution de Jasmin.
C'était le 14 janvier 2011. Ben Ali fuit alors vers l'Arabie Saoudite après 23 ans au pouvoir à l'issue d'une révolte populaire déclenchée par l'immolation par le feu en décembre d'un jeune vendeur ambulant à Sidi Bouzid, excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Le soulèvement fait 338 morts et plus de 2000 blessés et donne lieu à des centaines d'arrestations. La révolution de Jasmin allait lancer la vague des printemps. Dimanche, il n'y avait pas les scènes de liesse d'il y a 7 ans lorsque la foule applaudissait la chute du président Ben Ali. Après les troubles qui ont éclaté en début de semaine, des centaines de personnes ont défilé dimanche dans le calme dans les provinces et dans la capitale. Les manifestants continuent de réclamer la fin des mesures d'austérité. En Tunisie, quelques 600 000 personnes sont au chômage, dont 30% de diplômés.
En Libye, au moins 10 personnes ont été tuées ce lundi dans des combats près de l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli, à la suite de l'attaque d'un groupe armé, a annoncé le gouvernement libyen d'Union nationale. Le groupe a lancé une attaque sur le site de l'aéroport qui compte une prison où sont détenues plus de 2500 personnes, a indiqué la force Al-Rada, chargée de sécuriser la plateforme. Selon un rapport de Human Rights Watch publié aujourd'hui, les militants islamistes somaliens Shebab se montrent de plus en plus menaçants à l'égard des civils pour les forcer à leur remettre des enfants destinés à être endoctrinés. Ils se sont livrés à des représailles contre les communautés refusant de coopérer, affirme l'ONG internationale. Et le gouvernement éthiopien a annoncé la libération dans 2 jours de plus de 500 suspects dans l'attente d'un procès dont l'opposant Merera Gudina, président du Congrès fédéraliste Oromo, indiquait la radio d'État. Cette annonce intervient 2 semaines après la promesse des autorités de libérer des hommes politiques emprisonnés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
7 migrants africains sont morts en tentant d'atteindre l'île de Lanzarote dans l'archipel espagnol des Canaries, ont annoncé les autorités. Les forces de l'ordre, alertées par un habitant, ont trouvé près de la côte un zodiac à l'intérieur duquel il y avait 5 cadavres, dont 3 pourraient être des mineurs, selon un porte-parole de la garde civile, ajoutant que 2 autres occupants de l'embarcation étaient morts peu après avoir atteint l'île. Face à une polémique qui enfle sur des propos jugés insultants qu'il aurait tenus lors d'une réunion avec des parlementaires, le président américain Donald Trump a indiqué hier qu'il n'était pas raciste. En Afrique, les réactions continuent. Abdourahmane Dia.
Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée. Je peux vous le dire. Le président Donald Trump était obligé de répondre à une question d'un journaliste depuis son club de golf de West Palm Beach en Floride où il dînait dimanche avec le chef de la majorité de la Chambre des représentants. Une question à laquelle il a refusé de répondre vendredi. Donald Trump avait déjà affirmé dans un tweet n'avoir jamais dit de mal des Haïtiens après avoir déjà nié l'utilisation de l'expression insultante qu'on lui a prêtée lors d'une réunion sur l'immigration jeudi à la Maison Blanche. 2 sénateurs républicains ayant pris part à cette rencontre sont venus à sa défense, affirmant n'avoir pas entendu de tels propos. Après le Botswana et le Sénégal, l'Afrique du Sud a convoqué ce lundi l'ambassadeur des États-Unis à Pretoria pour s'expliquer, jugeant le démenti vendredi du président Trump pas assez catégorique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Faki, a aussi convoqué aujourd'hui la représentante de Washington auprès de l'UA à Addis Abeba pour lui faire part de l'indignation de l'organisation qu'il dirige.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La société minière britannique Gem Diamonds a extrait au Lesotho un diamant d'une masse exceptionnelle de 910 carats. Il est déjà considéré comme l'un des 5 plus gros jamais découverts sur la planète et pourrait valoir jusqu'à 33 millions d'euros. Cette découverte a fait grimper le titre de Gem Diamonds à la Bourse de Londres par une hausse de 14%. Accord entre le Rwanda et la Tanzanie pour la construction d'une voie ferrée de 400 km reliant Isaka à Kigali. Elle va favoriser les échanges commerciaux avec le Rwanda. Ce tronçon doit également concurrencer un projet similaire entrepris au Kenya qui devra relier le port de Mombasa à l'Ouganda et au Rwanda. Les travaux devraient débuter cette année. L'Égypte est désormais le 3e producteur mondial de fibres de verre aux côtés des États-Unis et de la Chine. La production annuelle a atteint environ 200 000 tonnes et 99% sont orientées à l'exportation. L'usine a également permis d'offrir 2 000 emplois directs.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
CHAN Maroc 2018, la Libye a écrasé la Guinée équatoriale dans le premier match du groupe C.
Tout à fait Nathalie, 3-0 pour les chevaliers libyens de la Méditerranée. Saleh Al-Taher a ouvert le score à la 12e minute avant de récidiver 5 minutes plus tard. Al-Arash Zakaria porte le score à 3-0 à la 87e. La seconde rencontre du jour dans ce groupe C oppose présentement le Nigeria au Rwanda, 0-0 pour le moment après un quart d'heure de jeu.
Hier, ce fut la journée des surprises avec les chutes d'entrée des éléphants et du Sili National.
Les Ivoiriens battus 1-0 par le petit poussé du groupe B. Néanmoins, le sélectionneur ivoirien Ibrahim Camara conjugue cette défaite au passé et veut se concentrer sur les matchs à venir.
On s'est pas rendu la tâche facile en début de compétition. Maintenant, il va falloir retrousser les manches pour faire un meilleur résultat le match prochain. De toute façon, après une défaite, faut laisser la défaite passer. On a encore des jours devant nous pour travailler. On va travailler tout ce qui n'a pas été pour que les matchs à venir, on soit beaucoup plus incisif offensivement et qu'on mette un peu plus de vitesse dans notre jeu. Je pense que ça va être l'une des clés pour les matchs qui arrivent.
C'était donc Ibrahim Camara, sélectionneur des éléphants locaux de la Côte d'Ivoire. Désillusion également pour la Guinée, surprise par le Soudan, 2-1 dans le groupe A. Lapé Bangoura, sélectionneur du Sili national local, nous analyse cette défaite d'entrée.
Le contenu en tant que tel n'a pas été trop mauvais, mais je crois que sur le plan défensif, on n'a pas été très solide. Sur le peu d'occasions que le Soudan a eu, il a été réaliste. Et puis ensuite, sur le plan offensif, malgré les occasions obtenues, on n'a pas été réaliste. Je pense le manque de réalisme et la solidité au niveau de la défense, je pense que cela est un peu quand même dû à une certaine expérience parce que les deux qui ont joué dans l'axe, c'est leur première compétition de ce niveau. Après, dans l'ensemble, quand tu prends le Soudan qui a été très bien sur les contres, sur les balles aériennes, je crois en voyant le match en tant que tel, je pense, l'entraîneur vient de le dire, le match nul pouvait être équitable ou pourquoi pas nous. Moi, je pense, dans l'ensemble, on n'a pas été très bon défensivement et on n'a pas été réaliste.
C'était donc Lapé Bangoura, sélectionneur du Sili national local. Le groupe D entre en liste demain avec Burkina Faso, Angola à 16h30 et Congo, Cameroun à 19h30, temps universel.
Et autre nouvelle sportive, Yacouba, dans les tribunaux cette fois, le TAS confirme la radiation de Joseph Lamptey.
Tout à fait, la FIFA a confirmé aujourd'hui avoir pris bonne note de la sentence du tribunal arbitral du sport. Une note qui confirme la suspension à vie de l'arbitre ghanéen. D'après les conclusions du TAS, Lamptey est reconnu coupable d'avoir volontairement pris de mauvaises décisions dans le match Afrique du Sud-Sénégal dans le but de permettre qu'un certain nombre de buts soient marqués afin que des parieurs puissent toucher leur gain. Rappelons que ce match joué le 12 novembre 2016 et rejoué en novembre 2017, comptait pour la qualification au Mondial 2018.
Et on termine par du cyclisme. L'Allemand Lukas Karstensen, premier maillot jaune de la 13e édition de la Tropical Amissa Bongo.
Et oui, Nathalie, c'est au sprint que s'est disputée cette première étape de la Tropical Amissa Bongo. L'Allemand Lukas Karstensen a devancé le Français Adrien Petit et s'est emparé du maillot jaune de leader. Il a avalé les 146,60 km qui séparent Kango à Lambaréné en 3h41min52s. Deuxième étape demain mardi et ça se coule entre Ntende et Fougamou, 173 km.
Un grand merci Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au Bénin, la semaine s'annonce très dure pour le gouvernement. Après les agents de la santé, de la justice et les 6 centrales syndicales, le Front d'action des syndicats de l'éducation projette également d'entrer en grève à partir de mardi. Ils protestent tous contre le retrait du droit de grève aux magistrats, aux agents de la santé et aux forces de sécurité. Un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
En votant la loi sur le retrait du droit de grève à certains travailleurs, les députés étaient loin d'imaginer que cela pourrait paralyser tous les secteurs d'activité. Même le président de l'Assemblée nationale s'est senti obligé de se justifier afin de lever tout équivoque. Pour Adrien Rumbedji, c'était un devoir républicain d'être compatissant envers les populations qui récoltent les plus graves préjudices pendant les mouvements de grève dans les secteurs concernés.
Nous aurions aimé ne pas toucher à ce droit. Nous avons dû le faire. Parce que des abus sont commis dans l'exercice de ce droit. C'est le lieu de le dire, c'est mon devoir.
Les travailleurs du secteur de la justice ont été assez clairs sur la nécessité de retirer cette loi qui, selon eux, est une restriction des libertés. Ceux de la santé pensent que le gouvernement a manqué à sa promesse en se portant complice du vote d'une telle loi.
Il veut nous retirer le droit de grève et nous allons réclamer, reprendre ce droit de grève par la grève. Et nous allons déclencher la grève. Vous êtes en négociation avec les gens. Vous avez promis des choses après la grève. Et nous sommes tu malgré qu'on n'ait pas encore eu tout eu et vous décidez de nous supprimer la droit de grève. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas tenir promesse.
Mardi prochain, les écoles fermeront leurs portes de l'enseignement primaire jusqu'au supérieur. L'heure est grave et le feu qui arrache le toit du voisin peut vous surprendre si vous ne faites rien, a précisé le porte-parole du Front d'action des syndicats de l'éducation.
Nous constatons que les libertés sont en train d'être attaquées et violées. Les travailleurs du secteur de l'éducation veulent aller en grève pour poser les problèmes de carrière, mais sans occulter aussi les problèmes de liberté, parce qu'il faut jouir du droit de grève avant de pouvoir l'exercer, et cela n'arrive pas qu'aux autres.
Dans le rang des populations, les avis sont partagés. Certains trouvent que les travailleurs âgés n'ont pas brandi d'office l'arme de la grève chaque fois qu'ils sont mécontents.
Ça, ce n'est pas bon, on doit radier. Ils sont en train de pénaliser la population. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? À part la grève, il y a plusieurs autres actions syndicales.
Il y a quelques jours, les centrales syndicales ont tenu un sit-in devant le Parlement pour, disent-ils, aller rappeler aux députés qu'ils doivent voter des lois pour le bien-être du peuple et non pour les intérêts du chef de l'État. Pour le député Gildas Agonkan, c'est bien pour la sauvegarde des intérêts du peuple que cette loi a été votée.
Nous pensons que la grève dans un certain nombre de domaines de 7 heures dans notre pays a été un peu dans une logique d'abus et avec des conséquences dommageables pour les populations. Et nous avions pensé que pour pallier à tout ça, faille interdire, refuser la grève à un certain nombre de corps.
En attendant que la Cour constitutionnelle ne donne son avis sur cette loi, la lecture que chaque camp fait de l'article réservé au droit de grève des travailleurs dans la Constitution en vient même à semer le doute dans l'esprit des populations. Pour les travailleurs, la paralysie de tous les secteurs d'activité cessera avec le retrait de la loi. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces armées du Mali se préparent à lancer une vaste opération de sécurisation des régions centrales. L'objectif est de traquer tous les groupes terroristes et djihadistes qui y sévissent. Cette opération vise aussi à permettre le retour de l'administration et l'organisation des élections générales cette année. Notre correspondant Kassim Traoré nous en dit plus.
Plus d'un millier de militaires seront déployés dans le centre du pays pour renforcer une ancienne initiative de l'armée malienne. Général de brigade Bemba Moussa Keïta, chef d'état-major général des armées du Mali.
Je puis rassurer nos populations que nous allons amplifier la mutualisation des moyens de l'opération d'armée, ceux du plan de sécurisation intégrée des régions du centre avec ceux des partenaires pour créer un environnement favorisant le développement socio-économique et culturel et permettant la tenue des élections générales de 2018.
Ségou et Mopti sont les deux régions concernées par cette opération. Hassan Kone de NotreNation.com.
De l'insécurité qui résidait dans certaines localités du Nord depuis un certain temps s'est déplacé dans le centre du Mali et en train de glisser vers le centre-est du Mali. Donc il est tout à fait normal en prévision des échéances électorales futures que le Mali rassure en ramenant la sécurité sur une grande portion du territoire et de façon très urgente.
Cette opération ne doit pas se limiter aux seules régions du centre. C'est ce que pense Sidi El-Meidi Al-Baka de Kida.
La coalition entre les hommes d'Amadou Koufa et Yadegarani est une réalité. Donc, le problème du centre est le même problème du nord qui s'est juste déplacé. Il nous manque aussi ces entretiens entre les chefs des fractions, les chefs des villages. Il y a une nécessité de jouer la carte de l'information, de la sensibilisation, mais surtout des renseignements.
Le volet sécuritaire est déjà opérationnel avec ses quatre grands axes. Général de brigade Salif Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.
Nous sommes arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas résoudre ces problèmes-là par la simple force armée. Il fallait que l'administration soit là, et qu'il fallait parler avec la population et qu'il fallait aider la population pour qu'elle puisse rester avec des actions de développement.
Le plan intégré de sécurisation des régions du centre a réalisé des actions dans la région de Mopti. C'est ce que nous explique le général Salif Traoré.
Nous avons déjà deux sites stratégiques dans la région de Mopti qui sont occupés aujourd'hui par les forces de sécurité. Et dans le premier site qui est Kouakrou, nous avons déjà l'administration, l'école, la santé. Tout est revenu et la vie reprend là-bas. Nous allons donc mettre les bouchées doubles pour que dans les trois mois à venir, nous puissions être présents dans l'essentiel de cette zone-là pour que la population civile puisse retrouver le calme.
Les populations maliennes attendent de voir le début des opérations militaires s'ils vont retrouver leur quiétude d'antan. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La journée Martin Luther King est célébrée ce lundi aux États-Unis pour rendre hommage aux militants des droits civiques assassinés en 1968. Pour une analyse sur la raison d'être de MLK Day, aujourd'hui, Abdourahman Dia a joint le professeur Souleymane Bachir Ndiaye de l'Université Columbia à New York.
Je ne vois pas très bien d'ailleurs le sens du raisonnement qui est ainsi produit par les conservateurs, parce que célébrer l'action historique d'un personnage historique comme Martin Luther King, c'est quelque chose qui s'impose à nous, quelles que soient les circonstances. Même si son combat était aujourd'hui couronné de succès, il faudrait quand même le saluer, ce combat, et le célébrer.
Cette journée Martin Luther King est célébrée dans un contexte de polémique sur des propos insultant qu'aurait tenu le président Donald Trump à l'endroit des pays africains et de Haïti. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment pour les relations interraciales aux États-Unis aujourd'hui?
Alors justement, je noterai d'abord que ces circonstances que vous évoquez, le contexte que vous évoquez, manifestent bien que le raisonnement des conservateurs disant qu'il n'était plus nécessaire de célébrer le combat de Martin Luther King n'a pas lieu d'être. Ce raisonnement est totalement invalidé, précisément par les circonstances actuelles qui montrent que la fameuse phrase de W.E.B. Du Bois disant que le problème du XXe siècle était le problème de la race, au fond, cette phrase est vraie et sa signification est en train de déborder sur le XXIe siècle.
Beaucoup de leaders d'opinion de la communauté noire ici aux États-Unis ont vigoureusement réagi à ces propos qu'on prête au président. Est-ce que cela veut dire que la communauté afro-américaine s'identifie à ses origines africaines ou c'est plutôt son leadership seulement et pas le reste de la communauté afro-américaine?
Écoutez, c'est une question importante et difficile que vous posez là, parce que c'est vrai, j'aurais tendance à penser que les leaders de la communauté africaine-américaine sont évidemment tout à fait conscients du lien organique profond qui lie les communautés de part et d'autre de l'Atlantique, nous dirons. Mais je ne suis pas sûr que cette notion de solidarité soit aille véritablement plus profondément dans la communauté africaine-américaine au-delà de son leadership. Sur ce plan-là, évidemment, il y a encore à travailler. Les communautés, on va dire, immigrées ou issues de l'immigration africaine qui vivent aujourd'hui dans beaucoup de villes américaines n'ont pas toujours le sentiment d'être de plein pied, dirons-nous, avec la communauté africaine-américaine.
C'était une analyse du professeur Souleyman Bachir Ndiagne, joint à New York.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joseph Morissin, à la console Alberto, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le troisième lundi de chaque mois de janvier, les Américains honorent la mémoire du révérend pasteur Martin Luther King Jr. Dr. King, pasteur baptiste de l'État de l'Alabama, était un leader du mouvement des droits civiques et qui visait à obtenir des changements sociaux par des moyens non violents. Ce 15 janvier, il aurait fêté son 86e anniversaire. Estimant que le changement ne roule pas sur les roues de la fatalité, mais passe par une lutte continuelle, le Dr. King a organisé et participé à des boycotts de masse, des sit-ins, des marches pacifiques et d'autres actes de désobéissance civile non violents. Le Dr. King a déclaré qu'une personne qui enfreint une loi que sa conscience considère injuste et qui accepte la peine d'emprisonnement pour éveiller la conscience de la communauté sur son injustice exprime en réalité le plus grand respect pour le droit. Ainsi, les militants pour les droits civiques ont parfois délibérément, mais pacifiquement et respectueusement enfreint les lois visant à séparer les citoyens blancs des non-blancs, espérant ainsi attirer l'attention sur l'iniquité inhérente à une telle législation. Ainsi, quand une couturière noire du nom de Rosa Parks a enfreint la loi à Montgomery, dans l'Alabama, en refusant de céder son siège dans un bus à un passager blanc, elle a été emprisonnée. Mais son traitement a attiré l'attention de la nation sur elle et a accru la sympathie pour sa cause. La plus grande réalisation de Dr. King et du mouvement pour les droits civiques est venue en 1964 avec l'adoption de la loi qui interdit la ségrégation dans les lieux publics ainsi que la discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, la religion, le sexe ou l'origine nationale. La loi sur les droits civiques de 1965 interdit la discrimination raciale aux élections et la loi de 1968 sur le logement équitable interdit la discrimination dans le logement et l'octroi des prêts immobiliers sur la base de la race et l'origine nationale. Le docteur King avait 39 ans quand il est mort par balle le 4 avril 1968. Mais son héritage est toujours vivant. Avec le temps, toutes les lois ségrégationnistes ont été abrogées et la discrimination est désormais une infraction punissable. La vie du Dr King est bien résumée dans ses propres mots. La qualité, pas la longévité, est ce qui est important dans la vie.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.